Nous reprenons la lecture du crime d'Orcival d'Émile Gaboriau. Nous nous arrêterons au début du 23e chapitre. Vous pourrez réécouter cette émission sur le site de Radio Grand Ciel.
Le père Plantin eut un geste désespéré de rage impuissante. « Ah ! S'écria-t-il, ne savoir où le misérable se cache pour lui arracher Laurence !» L'agent de la sûreté prit le bras du vieux juge de paix et le serra énergiquement. « Rassurez-vous, monsieur, dit-il d'un ton froid, nous le retrouverons ou je perdrai mon nom de Lecoq. Et pour être franc, je dois vous avouer que la tâche ne me paraît pas bien difficile. » 3 ou 4 coups discrets frappés à la porte interrompirent monsieur Lecoq. L'heure s'avançait et depuis bien longtemps déjà la maison était éveillée et remuante. 10 fois au moins, madame Petit, dévorée d'inquiétude, malade et pleurant presque de curiosité déçue, était venue coller son oreille à la serrure. Vainement, hélas. « Que peuvent-ils machiner là-dedans » disait-elle à Louis, son tranquille commensal. « Voici 12 heures qui sont enfermées, sans boire ni manger. Cela a-t-il du bon sens ? Enfin, je vais toujours leur préparer à déjeuner. » Ce n'était pourtant pas Madame Petit qui se risquait à frapper. C'était Louis, le jardinier, qui venait rendre compte à son maître de dégâts tout à fait extraordinaires commis dans le jardin. Le gazon avait été abîmé, piétiné, saccagé. Il apportait en même temps des objets singuliers, laissés par les malfaiteurs sur la pelouse et qu'il avait ramassés. Ces objets, monsieur Lecoq les reconnut du premier coup d'œil. « Ciel ! S'écria-t-il, je m'oubliais. Je suis là que je cause tranquillement à visage découvert, comme si nous n'étions pas en plein jour, comme si quelque indiscret ne pouvait pas entrer d'un moment à l'autre. » Et s'adressant à Louis, fort surpris de trouver là ce jeune homme brun qu'il n'y avait pas vu entrer la veille, « Donne-moi, mon garçon, lui dit-il, donne-moi ces accessoires de toilette qui m'appartiennent. » Puis, en un tour de main, pendant que le maître de la maison était allé donner quelques ordres, il rajusta sa physionomie de la veille, si bien que le père Plantin, en rentrant, n'en pouvait croire ses yeux. Il voyait là, près de la cheminée, son Lecoq, à l'air bénin de l'instruction. C'étaient bien les mêmes cheveux plats, ses favoris d'un blond fauve, ce sourire idiot. Il jouait avec sa même bonbonnière à portrait. Le déjeuner était servi et le vieux juge venait de prévenir ses hôtes. Silencieux comme le dîner de la veille, ce repas dura peu. Les convives sentaient le prix des minutes. Monsieur Domini les attendait à Corbeil et sans doute y commençait à s'impatienter de leur retard. Louis venait de poser sur la table une magnifique corbeille de fruits lorsque monsieur Lecoq pensa à Rebouteux. « Le misérable, dit-il, a peut-être besoin de quelque chose ?» Le père Plantin voulait envoyer son domestique chercher maître Rebelot. L'agent de la sûreté s'y opposa. « C'est un gaillard dangereux, dit-il. J'y vais moi-même. » Il sortit et 10 secondes ne s'étaient pas écoulées que sa voix se fit entendre. « Messieurs, cria-t-il, messieurs !» Le docteur et le juge de paix accoururent. En travers de la porte du cabinet gisait le corps inanimé du Rebouteux. Le misérable s'était suicidé. Il avait fallu au Rebouteux d'Orcival une présence d'esprit singulière et un rare courage pour se donner la mort dans ce cabinet obscur, sans éveiller par aucun bruit suspect l'attention des hôtes de la bibliothèque. Un bout de ficelle, trouvé en tâtant dans l'ombre parmi les vieux livres et les liasses de journaux, avait été l'instrument de son suicide. Il l'avait lié solidement autour de son cou, et se servant d'un morceau de crayon en guise de tourniquet, il s'était étranglé. Il n'offrait rien d'ailleurs de cet aspect hideux que la croyance populaire attribue aux individus qui périssent par la strangulation. Il avait la face pâle, les yeux à demi ouverts, la bouche béante et l'air hébété de l'homme qui, sans grande douleur, perd peu à peu connaissance sous l'influence d'une congestion cérébrale. Peut-être est-il encore possible de le rappeler à la vie, dit le docteur Gendron. et sortant bien vite sa trousse de sa poche, il s'agenouilla près du cadavre. Ce suicide paraissait contrarier vivement et même affecter M. Lecoq. Au moment où tout allait comme sur des roulettes, voilà que son principal témoin, celui qu'il avait arrêté au péril de ses jours, lui échappait. Le père Plantat, au contraire, semblait presque satisfait, comme si cette mort eût servi certains projets dont il n'avait pas parlé encore et répondu à de secrètes espérances. Peu importait d'ailleurs s'il ne s'agissait que de combattre les opinions de M. de Migny et de lui fournir les éléments d'une conviction nouvelle. Ce cadavre avait une bien autre éloquence que le plus explicite des aveux. Le docteur venait de se relever, il reconnaissait l'inutilité de ses soins. Vainement, il s'était livré à toutes les manœuvres qu'indique l'expérience en matière de strangulation. Il avait sans succès pratiqué l'ouverture de la jugulaire. C'est bien fini, dit-il. La pression apportée particulièrement entre l'os hyoïde et le cartilage thyroïde. L'asphyxie a dû être complète en très peu d'instants. Le corps du rebouteux était alors étendu sur le tapis de la bibliothèque. Il n'y a plus qu'à le faire reporter chez lui, dit le père Plantin. Nous l'y accompagnerons pour mettre les scellés sur tous ces meubles qui pourraient bien contenir des papiers importants. Et se retournant vers son domestique, « Cours, lui dit-il, jusqu'à la mairie, demander un brancard et deux hommes de bonne volonté. » La présence du docteur Gendron n'était plus nécessaire. Il promit au père Plantat qu'il le rejoindrait et sortit pour aller s'informer de l'état de M. Courtois. Cependant, Louis n'avait pas tardé à reparaître, suivi non pas d'un homme de bonne volonté, mais de 10. On plaça sur le brancard le corps de Reblot et le funèbre cortège se mit en route. C'est tout en bas de la côte, à droite du pont de fil de fer, que demeurait le rebouteux d'Orcival. Il occupait seul une petite maison composée de 3 pièces, dont une lui servait de boutique et était encombrée de paquets de plantes, d'herbes sèches, de graines et de 100 autres articles de son commerce d'herboristerie. Il couchait dans la pièce du fond, mieux meublée que ne sont d'ordinaire les chambres à coucher de campagne. Les porteurs déposèrent sur le lit leur triste fardeau. Ils auraient été fort embarrassés sans doute si parmi eux ne s'était trouvé le tambour de ville qui est en même temps fossoyeur d'Orcival. Cet homme expert en tout ce qui concerne les funérailles donna toutes les indications pour la dernière toilette. Lui-même, d'une main habile et prompte, disposait les matelas selon le rite, pliant les draps et les bordant ainsi qu'on a coutume de le faire. Pendant ce temps, le père Plantat visitait tous les meubles dont on avait pris les clés dans les poches du suicidé. Les valeurs trouvées en possession de cet homme, qui 2 ans plus tôt vivait au jour le jour et ne possédait pas un sou vaillant, devaient être contre lui un témoignage accablant et ajouter aux preuves moralement indiscutables mais non évidentes pourtant de sa complicité. Mais le vieux juge de paix avait beau chercher, il ne rencontrait rien qu'il ne connût déjà. C'étaient les titres de propriété du Prémorin, des champs de Prappel et des pièces de terre Perron. À ces titres étaient jointes 2 obligations, une de 150 francs et l'autre de 820 francs, souscrites au profit du sieur Rebelot par 2 habitants de la commune. Le père Plantat dissimulait mal son désappointement. « Pas de valeur, » fit-il à l'oreille de M. Lecoq. « Comprenez-vous cela ?»« Très bien, » répondit l'agent de la sûreté. C'était un rusé gaillard, ce Rebelot, assez prudent pour cacher sa fortune subite, assez patient pour paraître mettre des années à s'enrichir. Vous n'apercevez, monsieur, dans son secrétaire que les valeurs qu'il croyait pouvoir avouer sans danger. Pour combien y en a-t-il là? Le juge de paix additionna rapidement les différentes sommes et répondit. Pour 14 500 francs. Madame Sauvresy lui a donné davantage, déclara péremptoirement l'homme de la préfecture. N'ayant que 14 000 francs, il n'aurait pas été assez fou pour les placer en terre. Il faut qu'il ait un magot caché quelque part. Sans doute je suis de cet avis, mais où? Ah, je cherche. Il cherchait en effet sans en avoir l'air, il rôdait tout autour de la chambre, dérangeant les meubles, faisant à certains endroits sonner le carreau du talon de ses bottes, auscultant le mur par place. Enfin, il revint à la cheminée, devant laquelle plusieurs fois déjà il s'était arrêté. Nous sommes au mois de juillet, disait-il. Et cependant, voici bien des cendres dans ce foyer. On ne les retire pas toujours à la fin de l'hiver, objecta le juge de paix. C'est vrai, monsieur, mais celles-ci ne vous semblent-elles pas bien propres et bien nettes? Je ne leur vois pas cette légère couche de poussière et de suie qui devrait les recouvrir, alors que depuis plusieurs mois, on n'a pas allumé le feu. Il se retourna vers la seconde pièce où il avait fait retirer les porteurs, une fois leur besoin terminé, et dit « Tâchez donc de me procurer une pioche. » Tous les hommes se précipitèrent. Il revint près du juge de paix. « Certainement, murmurait-il comme en aparté, ces cendres ont été remuées récemment, et si elles ont été remuées ?» Il s'était baissé déjà, et, écartant les cendres, il avait mis à nu la pierre du foyer. Prenant alors un mince morceau de bois, il le promena facilement dans les jointures de la pierre. « Voyez, monsieur le juge de paix, disait-il, pas un atome de ciment, et la pierre est mobile, le magot doit être là. » On lui apporta une pioche, il ne donna qu'un coup, la pierre du foyer bascula, laissant béant un trou assez profond. « Ah ! S'écria-t-il d'un air de triomphe, je savais bien. » Ce trou était plein de rouleaux de pièces de 20 francs. On compta, il s'y trouvait 19 500 francs. La physionomie du vieux juge de paix portait en ce moment l'empreinte d'une douleur profonde. « Hélas, pensait-il, voici pourtant le prix de la vie de mon pauvre sauvresie. » En même temps que l'or, l'agent de la sûreté avait retiré de la cachette un petit papier couvert de chiffres. C'était comme le grand livre du rebouteux. D'un côté à gauche, il avait porté la somme de 40 000 francs. De l'autre côté à droite, il avait inscrit diverses sommes, dont le total s'élevait à 21 500 francs. Ces différentes sommes se rapportaient au prix de ses acquisitions. C'était par trop clair, Madame Sauvresie avait payé 40 000 francs à Rebelot son flacon de cristal bleu. Le père Plantat et l'agent de la sûreté n'avaient plus rien à apprendre chez le rebouteux. Ils serrèrent dans le secrétaire l'or de la cachette et apposèrent partout les scellés qui devaient rester à la garde de deux des hommes présents. Mais Monsieur Lecoq n'était pas encore complètement satisfait. Qu'était-ce donc que ce manuscrit lu par le vieux juge de paix? Un instant, il avait pensé que c'était simplement une copie de la dénonciation à lui confiée par Sauvresie. Mais non, ce ne pouvait pas être cela. Sauvresie n'avait pas pu décrire les dernières scènes si terribles de son agonie. Ce point resté obscur tracassait prodigieusement l'homme de la préfecture de police et empoisonnait la joie qu'il éprouvait d'avoir mené à bonne fin cette enquête si difficile. Une fois encore, il voulut essayer d'arracher la vérité au père Plantat. Le prenant sans trop de façon par le collet de sa redingote, il l'attira dans l'embrasure de la fenêtre et de son air le plus innocent. « Pardon, monsieur, lui dit-il à voix basse, est-ce que nous n'allons pas retourner chez vous ? À quoi bon, puisque le docteur Gendron, en sortant de chez le maire, doit nous rejoindre ici ? C'est que, monsieur, nous aurions, je crois, besoin du dossier que vous nous avez lu cette nuit, afin de le communiquer à monsieur le juge d'instruction. » L'agent de la sûreté s'attendait à voir son interlocuteur bondir à cette proposition. Ses prévisions furent trompées. Le père Plantat eut un triste sourire et le regardant fixement dans les yeux. « Vous êtes bien fin, cher monsieur Lecoq, dit-il, mais je le suis assez pour garder le dernier mot dont vous avez deviné une bonne partie. » Monsieur Lecoq faillit rougir sous ses favoris blonds. « Croyez, monsieur, balbutia-t-il. Je crois, interrompit le père Plantat, que vous seriez peut-être bien aise de connaître la source de mes renseignements. Vous avez trop de mémoire pour ne pas vous rappeler que, hier soir, en commençant, je vous ai prévenu que cette relation était pour vous seule et que je n'avais en vous la communiquant qu'un seul but, faciliter nos recherches. Que voulez-vous que fasse le juge d'instruction de notes absolument personnelles, n'ayant aucun caractère d'authenticité ? Il réfléchit quelques secondes, comme s'il eût cherché à ajouter une phrase à sa pensée et ajouta « J'ai en vous trop de confiance, monsieur Lecoq. Je vous estime trop pour ne pas être certain d'avance que vous ne parlerez aucunement de documents absolument confidentiels. Ce que vous direz faudra tout ce que j'ai pu écrire, maintenant qu'à l'appui de vos assertions, vous avez le cadavre de Rebelot et la somme considérable trouvée en sa possession. Si M. Domigny hésitait encore à vous croire, vous savez que le docteur se fait fort de retrouver le poison qui a tué Sauvresie. » Le père Plantat s'arrêta, il hésitait. « Enfin, reprit-il, je crois que vous saurez taire ce que vous avez su pénétrer. » La preuve que M. Lecoq est vraiment un homme fort, c'est que trouver un partenaire de sa force ne lui déplaît pas. Certes, il était en tant que policier bien supérieur au père Plantat, mais il lui fallait bien reconnaître qu'il ne manquait à ce vieux juge de paix de campagne qu'un peu de pratique et moins de passion. Plusieurs fois déjà depuis la veille, il s'était incliné devant sa perspicacité supérieure. Cette fois, il lui prit la main et la serrant d'une façon significative. « Comptez sur moi, monsieur, dit-il. » En ce moment, le docteur Gendron parut sur le seuil. « Courtois, qu'y a-t-il? Va mieux. Il pleure comme un enfant, il s'en tirera. Le ciel soit loué, répondit le vieux juge de paix. Mais puisque vous voici, partons, hâtons-nous, monsieur Domini, qui nous attendait ce matin, doit être fou d'impatience.
Lorsqu'il parlait de l'impatience du juge d'instruction, le père Plantat était certes bien au-dessous de la réalité. Monsieur Domini était furieux, ne comprenant rien à l'absence si prolongée de ses collaborateurs de la veille, du juge de paix, du médecin et de l'agent de la sûreté. Dès le grand matin, il était venu s'installer dans son cabinet au palais de justice, drapé de sa robe de juge, et il comptait les minutes. C'est que les réflexions de la nuit, loin d'ébranler et de troubler ses convictions, n'avaient fait que les affirmer. À mesure qu'il s'éloignait de l'heure du crime, il les trouvait plus simples, plus naturelles, plus aisées à expliquer. Mais la conviction où il était que son avis n'était pas celui des autres agents de l'enquête le taquinait, quoi qu'il pût se dire, et lui faisait attendre leur rapport dans un état d'irritation nerveuse dont son greffier ne s'apercevait que trop. Même dans la crainte de n'être pas là au moment de l'arrivée de M. Lecoq, redoutant de rester une minute de plus dans l'incertitude, il s'était fait apporter à déjeuner dans son cabinet. Précaution inutile. L'aiguille tournait autour du joli cadran à dessin bleu qui orne le palais, et personne n'arrivait. Il avait bien, pour tuer le temps, interrogé Guespin et la ripaille. Ces nouveaux interrogatoire ne lui avait rien appris. L'un des prévenus jurait ses grands dieux qu'il ne savait rien de plus que ce qu'il avait dit, l'autre se renfermait dans un silence farouche, on ne peut plus irritant, se bornant à répéter « Je sais que je suis perdu, faites de moi ce que vous voudrez. » Monsieur Domini allait faire monter un gendarme à cheval et à l'envoyer à Orcival s'enquérir des causes de cette inexplicable lenteur lorsque, enfin, l'huissier de service lui annonça ce qu'il attendait. Vite, il donna l'ordre de les faire entrer, et si violente était sa curiosité que lui-même, en dépit de ce qu'il appelait sa dignité, se leva pour aller au-devant d'eux. « Comme vous êtes en retard, disait-il. Et cependant, fit le juge de paix, nous n'avons pas perdu une minute. « Et nous ne nous sommes pas couchés. »« Il y a donc du nouveau ? » demanda-t-il. « A-t-on retrouvé le cadavre du comte de Trémorel ?»« Il y a du nouveau, monsieur, » répondit monsieur Lecoq, « et beaucoup. »« Mais on n'a pas retrouvé le cadavre du comte, et même, j'ose affirmer, qu'on ne le retrouvera pas, par une raison bien simple, c'est qu'il n'a pas été tué. » C'est qu'il n'est pas une des victimes comme on a pu le supposer un instant. C'est qu'il est l'assassin. À cette déclaration, fort nettement articulée par l'homme de la police, le juge d'instruction bondit dans son fauteuil. « Mais c'est de la folie ! » s'écria-t-il. Monsieur Lecoq ne s'est jamais permis un sourire en présence d'un magistrat. « Je ne le pense pas, » répondit-il froidement. Je suis même persuadé que si monsieur le juge d'instruction veut bien me prêter une demi-heure d'attention, j'aurai l'honneur de l'amener à partager mes convictions. Un imperceptible haussement d'épaule de monsieur Domini n'échappa pas à l'homme de la rue de Jérusalem, aussi crut-il devoir insister. Bien plus, je suis certain que monsieur le juge ne me laissera pas sortir de son cabinet sans m'avoir remis un mandat d'amener décerné contre le comte d'Hector de Trémorel que présentement il croit mort. « Soit, » fit monsieur Domini, « parlez. » Rapidement, alors, M. Lecoq se mit à exposer les faits recueillis tant par lui que par le juge de paix depuis le commencement de l'instruction. Il les exposait, non comme il les avait appris ou devinés, mais dans l'ordre chronologique et de telle sorte que chaque incident nouveau qu'il abordait découlait naturellement du précédent. Plus que jamais, il était entré dans son personnage de mercier bénin, s'exprimant d'une petite voix flûtée, outrant les formules obséquieuses « j'aurai l'honneur » ou « si monsieur le juge daigne me permettre ». Il avait ressorti la bonbonnière à portrait et, comme la veille au Valfeuillu, au passage palpitant ou décisif, il avalait un morceau de réglisse. Et à mesure qu'avançait son récit, la surprise de M. Doménie devenait plus manifeste. Par moments, il laissait échapper une exclamation. « Est-ce possible ? Ah, c'est à n'y pas croire !» M. Lecoq avait terminé. Il goba tranquillement un carré de réglisse, un carré de guimauve et ajouta. « Que pense maintenant M. le juge d'instruction ?» M. Doménie, il faut l'avouer, était médiocrement satisfait. Ce n'est jamais sans une secrète contrariété qu'on voit un inférieur désarticuler d'un doigt brutal un système qu'on a pris la peine de combiner et d'agencer. Mais si entier qu'il soit dans ses opinions, si peu disposé qu'il s'avoue à entrer dans le sentiment d'autrui, il lui fallait bien cette fois s'incliner devant l'évidence qui éclatait à aveugler. « Je suis convaincu, répondit-il, qu'un crime a été commis sur la personne de M. Clément Sauvresy avec l'assistance chèrement payée de ce roblot. C'est si vrai que dès demain, M. le docteur Gendron recevra une réquisition d'avoir à procéder sans délai à l'exhumation et à l'autopsie du cadavre de mon dit Clément Sauvresy. « Et je retrouverai le poison, affirma le docteur. Vous pouvez en être sûr. « Fort bien !» reprit M. Doménie, mais de ce que M. de Trémorel a empoisonné son ami pour épouser sa veuve, s'ensuit-il nécessairement, rigoureusement, qu'il a hier assassiné sa femme et ensuite pris la fuite ? Je ne le crois pas. Le père Planta n'osant rien dire, tant il craignait de s'emporter, trépignait de colère. M. Doménie s'égarait. Pardon. « Monsieur, objecta doucement Monsieur Lecoq, il me semblait que le suicide de Mademoiselle Courtois, suicide supposé, tout porte à le croire, prouvait au moins quelque chose. C'est un fait à éclaircir. La coïncidence que vous invoquez peut n'être qu'un pur effet du hasard. Mais, monsieur, insista l'agent de la sûreté, visiblement agacé, je suis sûr que Monsieur de Trémorel s'est rasé, j'en ai la preuve. Nous n'avons pas retrouvé les bottes qu'au dire de son domestique, il avait chaussé le matin. « Doucement, monsieur, interrompit le juge, plus doucement, je vous en prie. Je ne prétends pas dire que vous ayez absolument tort, il s'en faut. Seulement, je vous présente mes objections. Admettons, j'y consens, que monsieur de Trémorel ait tué sa femme. Il vit, il est en fuite, soit. Cela prouve-t-il l'innocence de Guespin ? Et qu'il n'a pris aucune part au meurtre ? C'était là, évidemment, le côté faible du plan de M. Lecoq. Mais, convaincu, sûr de la culpabilité d'Hector, il s'était assez peu inquiété du pauvre jardinier, se disant que son innocence éclaterait forcément d'elle-même quand on mettrait la main sur le coupable. Il allait cependant répliquer lorsque, dans le corridor, on entendit un bruit de pas puis des voix qui chuchotaient. « Tenez, fit M. Doménie, nous allons sans doute apprendre sur Guespin des détails d'un haut intérêt. »« Attendriez-vous quelques nouveaux témoins ?» demanda le père Planta. « Non, mais j'attends un employé de notre police de Corbeil auquel j'ai confié une commission importante. »« Au sujet de Guespin ?»« Précisément, ce matin, de fort bonne heure, une ouvrière de la ville à laquelle Guespin faisait la cour m'a apporté une photographie de lui très ressemblante à ce qu'elle m'a affirmé. Ce portrait, je l'ai remis à mon agent avec l'adresse des forges de Vulcain trouvée hier en possession du prévenu, le chargeant de savoir si Guespin n'aurait pas été vu dans ce magasin et s'il n'y aurait pas acheté quelque chose dans la soirée d'avant-hier. S'il est un chasseur jaloux, n'aimant pas à voir suivre sur ses brisées, c'est à coup sûr Monsieur Lecoq. La démarche du juge d'instruction le froissa si fort qu'il ne put dissimuler une affreuse grimace. « Je suis vraiment désolé, dit-il d'un ton sec, d'inspirer à monsieur le juge si peu de confiance qu'il croit devoir m'adjoindre des aides. » Cette susceptibilité amusa beaucoup monsieur Domini. « Eh, monsieur l'agent, fit-il, vous ne pouvez pas être partout à la fois. Je vous crois fort habile, mais je ne vous avais pas sous la main et j'étais pressé. » Une fausse démarche est souvent irréparable. « Rassurez-vous, j'ai envoyé un homme intelligent. » La porte du cabinet s'ouvrit au même moment et l'émissaire annoncé par le juge d'instruction parut sur le seuil. C'était un vigoureux homme d'une quarantaine d'années, à tournure soldatesque plutôt que militaire, portant moustache rude, taillée en brosse, aux yeux luisants, ombragés de sourcils touffus se rejoignant en bouquets formidables au-dessus du nez. Il avait l'air futé plutôt que fin et sournois encore plus que rusé, si bien que son seul aspect devait éveiller toutes sortes de défiances et mettre instinctivement en garde. « Bonne nouvelle !» dit-il d'une grosse voix enrouée et brisée par l'alcool. « Je n'ai pas fait le voyage de Paris pour le roi de Prusse. Nous sommes en plein sur la piste de ce gredin de Guespin. » Monsieur Domini l'interrompit d'un geste bienveillant, presque amical. « Voyons, Goulard, disait-il, il s'appelle Goulard, procédons par ordre, s'il se peut, et méthodiquement. Vous vous êtes transporté conformément à mes ordres au magasin des forges de Vulcain ? Immédiatement, au sortir du wagon, oui, monsieur le juge. Parfait. Et y avait-on vu le prévenu ? Oui, monsieur, le mercredi 8 juillet, dans la soirée. À quelle heure ? Sur les 10 heures, peu d'instants avant la fermeture du magasin, ce qui fait qu'il a été bien plus remarqué et bien mieux observé. Le juge de paix remuait les lèvres sans doute pour présenter une objection. Un geste de monsieur Lecoq qui le regardait, l'index posé sur la bouche, l'arrêta. « Et qui a reconnu la photographie ? » poursuivait monsieur Domini. « 3 commis, monsieur, ni plus ni moins. » Il faut vous dire que les manières de Guespin ont tout d'abord éveillé leur attention. Il avait l'air extraordinaire, m'ont-ils dit, à ce point qu'ils ont pensé avoir affaire à un homme ivre ou pour le moins gris. Puis, ce qui fixe leur souvenir, c'est qu'il a beaucoup parlé, il posait, il a été jusqu'à leur promettre sa protection, disant que si on lui garantissait une remise, il ferait acheter quantité d'outils de jardinage par une maison dont il avait toute la confiance, la maison du gentil jardinier. Vous pourrez réécouter cette émission sur le site de Radio Grand Ciel.